chemin de l'eau au travers du sol. Et ça veut dire que l'irrigation était bonne pour entretenir la biodiversité dans le sol, en même temps qu'elle était bonne pour faire, pour cultiver les fruits qui allaient pousser sur ces prairies inondées comme ça, par exemple, ou pour cultiver tous les produits que les agriculteurs voulaient cultiver. Et là, il y a une cassure dans notre imaginaire socio-technique, à nouveau à grand mot. Hein. Là, je vous parle de teneur de l'eau, j'espère que vous êtes convaincus que c'est pas compliqué à comprendre. Et teneur de l'eau, il faut vraiment penser en termes de teneur de l'eau pour faire face aux enjeux auxquels on est confronté maintenant. Parce que, pour l'instant, on a une cassure dans notre imaginaire socio-technique, c'est le deuxième grand mot que j'ai utilisé aujourd'hui. L'imaginaire socio-technique, c'est ce qui va lier les valeurs dans notre société avec la technologie qu'on croit est une technologie souhaitable. Donc si dans notre société, on voit comme valeur la production de valeur ajoutée à court terme, très très court terme, parce qu'à long terme, on détruit tout le monde en faisant ça, Albert en a touché un mot déjà, eh bien si notre seule valeur, c'est la production de valeur ajoutée à court terme, alors forcément, certaines technologies d'irrigation nous paraissent très très bonnes. Du style, je vais retirer l'eau du sol, je vais l'entreposer dans un réservoir et je vais l'acheminer en irrigation très efficiente à des plantes que je vais vendre très très cher sur le marché international. Ça paraît, cet imaginaire socio-technique va nous faire apparaître ces grands, ces méga-bassines comme une bonne technologie. Par contre, si on pense en termes de trajectoire de l'eau au travers de l'environnement, on se dit « Oh mince, il y a un pépin là !» Si je puise l'eau du sol pour l'entreposer, où est-ce qu'elle aurait dû aller, cette eau? Quel chemin elle aurait parcouru? Quelle biodiversité elle aurait fait vivre? Et là, je m'aperçois que je suis en train de faire un massacre. Je suis en train de transformer des terres en déserts. Si je détruis toute cette biodiversité qui est dans la terre dont nous parle Albert, c'est pas une question de romanticisme, là, dont je parle. Je parle des capacités du vivant à se maintenir. Parce que c'est la biodiversité la plus fondamentale. Sans elle, il n'y a pas de plantes qui vont pousser au-dessus du sol. Sans les plantes qui poussent au-dessus du sol, on n'a pas de faune au-dessus du sol. Donc on parle du vivant dans son ensemble. Et ce qui se passe, c'est que nos techniques d'irrigation traditionnelles, qui ont pu maintenant paraître inefficientes, étaient des techniques d'irrigation qui maintenaient ce vivant dans la terre, hein, tout en permettant l'irrigation. Tandis que maintenant, on nous propose, en nous prétendant que ce sont des solutions d'adaptation au changement climatique, de zigouiller toute cette biodiversité de manière à acheminer le maximum d'eau à la production de valeur ajoutée maximale. Alors, revenons à ces filaments micellaires. Je dois avouer ma positionnalité, c'est les vers de terre qui sont mes animaux préférés. Hein. Mais revenons aux filaments micellaires, avant de parler des vers de terre. Alors, les filaments micellaires, avec l'augmentation des températures caniculaires qu'on a eues ces dernières années, on voit des espèces qui disparaissent. Il y a des espèces micellaires. Donc, nous, quand on pense champignons, souvent on pense à la fructification hein, de champignons. C'est ça qui nous intéresse pour nos assiettes. Mais l'essentiel de l'organisme, ce sont ces kilomètres de filaments qu'on trouve dans chaque centimètre cube de sol. Et si un champignon, une espèce de champignon disparaît, les filaments ne peuvent plus jouer leur rôle de symbiose avec les racines des plantes. Et certains champignons vivent très très bien avec certaines racines de certaines espèces végétales. Il y en a d'autres qui ne s'entendent pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on trouve les cèpes dans les châtaigniers et en Cévennes, hein, il n'y a pas de secret. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Certaines espèces disparaissent parce que la température du sol devient trop chaude en été. Ils ne la supportent pas. Ben, c'est quoi notre joker comme adaptation au changement climatique maintenant? Ce sont les autres espèces micellaires qui, elles, sont capables de survivre à ces températures-là. Je préférais vous dire, on va arrêter le changement climatique. Là, on ne va pas y arriver, c'est certain. Donc, il faut s'y adapter. Alors, ces autres espèces, il faut les chouchouter, il faut leur donner le maximum de chances de survie. Il faut laisser l'eau traverser le sol. Le sol, l'eau, sa place est dans le sol. Et du coup, si on ne fait pas ça, on empêche, on tue notre joker qui nous permet de nous adapter au changement climatique. Et le jour où on aura transformé tous les sols en France en désert, À terme, on n'aura même plus d'agriculture dite productiviste. Et ce terme est très mensonger, parce que, en fait, l'agriculture qui se dit productiviste, en fait, elle produit moins. Hein, vous pourrez nous en dire tous les deux, ça, c'est votre spécialité. Et alors, du coup, en termes d'eau, comment penser les choses? Il faut toujours se poser la question, si je vais interagir avec l'eau, comment est-ce que je modifie sa trajectoire? Est-ce que je suis en train de priver la biodiversité de cette eau? Et attention, parfois certains me disent, ah oui, les eaux usées traitées qu'on jette à la mer, c'est quand même dommage, c'est du gaspillage. Oui et non. Parce que les ostréiculteurs et les mytiliculteurs dépendent des nutriments que nos rivières apportent dans l'écosystème côtier pour pouvoir voir leur coquillage grandir. Et lorsque nos rivières sont à sec, les mytiliculteurs, les ostréiculteurs ne peuvent pas apporter leur coquillage sur le marché parce qu'ils n'arrivent pas à grandir suffisamment. Donc, même l'eau qui atteint la mer, on ne peut pas dire qu'elle est gaspillée. Je ne dis pas qu'il faut arrêter toute interaction avec l'eau. Non, je dis qu'il faut qu'on se pose la question de comment construire une meilleure tenure de l'eau. Il faut qu'on se pose cette question collectivement, qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on a changé les trajectoires de l'eau dans nos localités. Alors, comme disait notre animatrice, excuse-moi, j'ai oublié ton nom.
Mireille,
elle disait, lorsqu'on artificialise les sols, en fait, on empêche l'eau de pluie d'arriver dans la terre, de continuer son chemin au travers de la terre. Mais si on travaille le sol de certaines manières, comme on le fait dans l'agriculture productiviste, on crée une croûte à peu près 80 cm en dessous de la surface de la terre qui imperméabilise le sol. Donc, la partie supérieure du sol sature en eau et puis après va créer des inondations. Donc, on peut avoir des inondations et nos nappes phréatiques ne se rechargent pas. C'est aussi possible. Donc, c'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. C'est qu'est-ce que je peux faire pour que la trajectoire de l'eau soit optimale? Bon, déjà, on peut commencer par gravillonner nos parkings pour les désimperméabiliser. On peut faire des tas d'actions qu'on choisit au niveau local. Nous, en tant que citoyens, on a une grande possibilité d'agir. Alors, est-ce que j'ai le droit... Je ne voulais pas parler 5 minutes parce que je voulais laisser la parole surtout à Albert. Il me reste 1 minute. Est-ce que je peux faire mon quart d'heure commercial?
Tu as encore 6 minutes.
Non, mais je voulais donner 5 minutes en plus à Albert. C'est elle la spécialiste.
Non, c'est ça.
On a démarré un projet à Mondego de sciences citoyennes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On construit des capteurs avec les citoyens. Donc, c'est le maire de Mondego qui a commandé les intrants. Et ça, les capteurs eux-mêmes ont été conçus par un collègue à moi, à l'unité de recherche Prodig. C'est pas une université, c'est une unité de recherche qui dépend de plusieurs universités, du CNRS, et d'AgroParisTech et de l'IRB. Et alors, ces capteurs vont mesurer l'humidité du sol à 3 profondeurs différentes. Ils mesurent la température du sol et ils mesurent la pluviométrie à cet endroit même. Et alors, on est en train de mailler tout le territoire de la commune avec ces capteurs pour pouvoir après faire une analyse spatiale. Alors, une analyse spatiale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a plein d'algorithmes dans notre ordinateur, qu'on les fait tourner, pour voir quels sont les objets d'architecture vernaculaire concernant l'eau qui ont pu influencer, à part l'utilisation des sols, la capacité du sol à retenir l'eau. Donc, on veut mieux comprendre la manière dont notre interaction avec l'environnement a modifié cette trajectoire de l'eau et comment on pourrait mieux conserver l'humidité dans les sols en période de sécheresse et mieux se protéger des inondations. Donc, évidemment, l'intérêt pour les habitants est manifeste, mais là où ça devient un problème de tenure de l'eau, c'est que là où on le fait, on a eu la révolution des oignons à partir de 93. Ça montre que j'ai parlé 15 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire, cette révolution des oignons? C'est que tout à coup, on a délaissé cette tenure de l'eau traditionnelle où on avait tous ces béals qui laissaient l'eau s'infiltrer dans le sol. On est allé équiper des sources avec des tuyaux imperméables pour l'acheminer directement à des parcelles où on faisait des oignons, parce que c'était la nouvelle pelouse d'or. Tout à coup, on s'est aperçu que nos sources disparaissaient. Bon, c'est un peu un problème quand vos sources disparaissent. Alors évidemment, tout le monde a blâmé le changement climatique. On mesure la pluviométrie, on s'aperçoit que non, la pluviométrie, pour l'instant, elle est restée la même. Nos sources ne disparaissent pas parce qu'il y a moins de pluie. Nos sources disparaissent parce qu'on a changé nos interactions avec la trajectoire de l'eau. Ben ça, c'est problématique. Et c'est un problème collectif. Et donc, en commençant à petite échelle, en faisant ce travail de recherche avec les habitants de la commune, sachant que la moitié sont en oignon productiviste, l'autre moitié en agroécologie, on arrive à se parler et on arrive à se dire comment est-ce qu'on peut améliorer la tenure de l'eau pour que l'eau, c'est quand même un commun patrimoine de la nation d'après la loi de 1992. Comment est-ce qu'on peut la traiter comme un commun? Et évidemment, faire ça à une plus grande échelle, par exemple, moi je pense Poitou-Charentes, comme par hasard, c'est ambitieux, mais c'est possible. Parce que si on le fait avec des sciences citoyennes, on produit des données auxquelles tout le monde va croire, parce que tout le monde a participé à les produire, et on peut discuter des changements de tenure de l'eau. Alors, en soi, c'est une petite révolution, parce que c'est un accaparement par un processus démocratique d'une gestion de l'eau qui, jusqu'à présent, a surtout été produite par des ingénieurs des grands corps d'État. Mais on a le droit de le faire. La loi nous le permet. Et donc, c'est possible. Mais cette interaction avec l'eau doit se faire complètement en concertation avec une meilleure compréhension du sol. Et c'est pour ça que quand vous m'avez téléphoné pour me dire « cette année, on veut parler des sols », après l'année passée, on a parlé de l'eau, je me suis dit « ils sont brillants ces gens, ils ont parfaitement raison ».
Merci Julie. Donc, je vais donner la parole à Raphaël, notre paysan respectueux de la nature et qui arrive à vivre. À toi, Raphaël.
Pardon,
Stéphane.
Non, c'est Raphaël.
C'est Raphaël ?
Raphaël ?
Ben alors ! Ah, merde ! Excusez-moi, c'est moi qui ai fait les chevalets en plus. Bon, c'est Raphaël. Je m'étais pas trompée. Et il s'appelle Balthassar, ça c'est juste.
Oui, bonjour à toutes et tous. Bon, c'est pas facile d'arriver après les deux championnes qui étaient devant moi. Je vais essayer de vous parler un petit peu d'agroécologie, de ce qu'on fait à la ferme, de ce qui nous paraît intéressant d'être dit par rapport à ces questions-là. Pour me présenter, moi je suis paysan de près d'ici, à près d'Annemasse, à Bonne-sur-Menoge, on est à 15 km du centre de Genève. On a un troupeau de vaches laitières, on a 45 vaches, et on fait des cultures, on fait un peu de céréales. Une partie pour nourrir les vaches, on vise un peu l'autosuffisance au niveau du troupeau, et une partie pour fabriquer de la farine qu'on vend à des boulangers, et un petit peu des particuliers. Voilà. Du coup, l'agroécologie, c'est quelque chose qui nous paraît un peu évident. La seule agriculture durable est écologique, de toute façon. C'est aussi la plus rentable, en tout cas de notre point de vue, parce que si on arrive à trouver un équilibre entre le sol, le système agro-silvo-pastoral, c'est-à-dire qui est le système traditionnel dans nos régions, c'est-à-dire qui comprend des cultures, des prairies, des animaux et des arbres, et c'est le seul qui nous paraît vraiment durable à terme, et c'est aussi celui qu'on a beaucoup oublié depuis la Révolution verte. C'est pas forcément les systèmes les plus extensifs qui sont les plus écologiques, en tout cas au niveau mondial, parce que il y a des systèmes qui sont millénaires et pourtant qui concernent des densités de population extrêmement élevées. Par exemple, en Asie du Sud-Est, dans les grands fleuves, les deltas des grands fleuves, il y a jusqu'à 1500 habitants au kilomètre carré qui sont nourris uniquement localement depuis plusieurs milliers d'années. Du coup, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde que c'est que le sol est dégradé et que c'est pas possible de nourrir la population. Voilà. Du coup, ce qu'on essaye de faire à l'échelle de la ferme, déjà, c'est de... On a fait le choix, on est trois frères associés, on est avec un salarié. On aurait pu augmenter largement la taille du troupeau quand on s'est installé. On avait la possibilité d'augmenter la production. C'est ce qui a été fait assez massivement partout en France et dans le monde. On a préféré rester avec le troupeau qu'on avait d'une quarantaine de vaches, alors qu'on aurait pu monter facilement à 80 ou 100, parce que ça nous faisait perdre l'équilibre qu'on avait. On avait l'autosuffisance alimentaire à 90-95%. On n'achète presque rien. Et du coup, si on doublait la taille du troupeau, ça nous faisait forcément perdre cette autosuffisance-là. Aujourd'hui, on n'achète pas de foin, pas de paille, très peu de concentré, les aliments complémentaires pour les vaches. Et on élève tous nos animaux, alors que si on doublait la taille du troupeau, on n'aurait plus été autosuffisant en foin, on aurait forcément dû acheter la paille et les concentrer, et puis on doublait la quantité de d'effluents, c'est-à-dire le fumier ou le lisier. Certainement, on aurait fait ce qu'on fait la majorité des fermes dans la région depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire arrêter le fumier pour remplacer par du lisier. Au niveau du sol, c'est pas du tout la même chose, parce que c'est des fermentations anaérobies, c'est-à-dire sans oxygène avec le lisier, alors que le fumier, qui est les bouses plus les urines mélangées à la paille, c'est des fermentations aérobies, c'est-à-dire en présence d'oxygène, et c'est pour le sol, c'est des choses qui sont tout à fait différentes à l'arrivée. Voilà. Et puis, on s'aperçoit que le choix a pas forcément été... était plutôt pertinent parce que économiquement, quand on se compare avec les autres fermes laitières du coin, on est beaucoup plus petit, enfin beaucoup moins de vaches par personne que la moyenne, et on a un revenu qui est plutôt supérieur à la moyenne. Du coup, on se dit qu'on n'est pas forcément dans le faux. Et puis il y a quelque chose qui est vachement important pour les effluents. Nous, on est à peu près, on en a juste assez, voire on en manque un petit peu. Mais du coup, on va mettre du compost, parce qu'on composte tout le fumier d'élevage. On va en mettre dans les champs parce qu'il y en a besoin. Alors que si on avait un troupeau trop important, on se retrouverait à vider les fosses alizées comme ça se pratique en plein hiver, parce qu'elles sont pleines, il faut bien les vider. Et du coup, si on fait ça, c'est le début des ennuis, quoi. Du coup, les plantes sont pas capables d'absorber à ce moment les nutriments. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a des pollutions, qu'il y a des lessivages qui partent à la rivière. Et puis, ça détraque la flore aussi. Et du coup, et c'est à ce moment-là qu'on perd les belles prairies fleuries qu'on pouvait avoir autrefois. Elles ont beaucoup disparu à cause du lisier. Et puis, on voit apparaître des espèces qui sont pas celles qu'on aimerait avoir, quoi. Voilà. Enfin, pour les plus connus, quand il y a trop de lisier, ça fait des champs qui sont tout jaunes au printemps, une explosion de pissenlits, quoi. Et après ça, il y a presque plus de fleurs, les apiculteurs s'en plaignent, et puis et ça fait des prairies plus pauvres, et puis il y a aussi des fromages qui sont moins goûtus et moins sains à la santé. Il y a aussi des études qui ont été faites dans ce sens-là, quoi. En gros, la diversité du sol, un sol en bonne santé, ça fait des animaux qui sont en pleine santé, qui donnent des aliments sains et qui font que la population elle se portera bien aussi, quoi. Et personnellement, c'est quelque chose qui nous tient vachement à cœur, parce que on a quand même une immense responsabilité par rapport à la santé publique. C'est on nourrit quand même on nourrit la population, et du coup qu'on fasse les choses bien plutôt bien, mal ou très mal, ça a quand même un grand impact, quoi. Il y a un proverbe qui dit que ton premier médicament soit ton aliment, c'est quelque chose d'assez juste, quoi. Voilà. Du coup, ça passe par. Du coup, on a toujours gardé le système traditionnel de polyculture élevage avec beaucoup de prairies, des cultures. On est aussi en lien avec plusieurs petites fermes maraîchères des environs qui eux n'ont pas d'animaux, mais par contre sont très demandeuses de fumier, sachant que s'il y a plus d'animaux pour les légumes, et ben c'est la porte ouverte à la chimie, quoi. Si on n'a plus de fumier à leur apporter, qu'est-ce qui pourra remplacer ça parce que c'est des plantes très gourmandes, le maraîchage est très intensif, ça demande beaucoup de fertilisation, et si c'est pas fait par de la fumure animale, ce sera fait par des engrais chimiques. Voilà. Du coup, on essaie de faire ça, on cultive de plus en plus de métail. Les métail, c'est des associations de culture entre les céréales et puis des légumineuses. Enfin, Julien en a parlé un petit peu avec par exemple, triticale, avoine et pois. Le pois étant une légumineuse, elle fournit l'azote aux céréales. Du coup, ça fait des rendements qui sont assez intéressants et sans avoir besoin d'apporter d'engrais, quoi. Et on a replanté beaucoup de haies. Depuis une douzaine d'années, on a un peu moins d'un kilomètre de plantés, en plus des trois qu'on avait déjà, plus c'est une région de lisière, quoi. Et puis c'est les haies, enfin Julie on a déjà beaucoup parlé, ça, par rapport à la gestion de l'eau, c'est assez capital. Déjà, ça protège du vent. On dit entre 10 et 20 fois la hauteur des arbres qui est protégée en aval derrière la haie par protéger du vent, et ça limite énormément l'évaporation des plantes, quoi. Les plantes transpirent beaucoup moins parce qu'elles sont protégées par les arbres. Et puis là, une haie aussi, 1 mètre linéaire, ça arrête 5 mètres cubes d'eau par an, l'eau qui ruisselle dans la pente. Il y en a 5 mètres cubes sur chaque mètre de haie qui va s'infiltrer dans le sol. et qui du coup va pas faire d'inondation navale que ça pleut fort, et puis qui va ressortir tout doucement dans les ruisseaux et puis dans les rivières dans les semaines suivantes ou les mois qui viennent, quoi. Et du coup, c'est il y a une dame qui nous avait fait des formations par rapport aux haies et tout ça, au système bocager, et disait à chaque fois qu'on a planté une haie, il y a une source qui s'est remise à couler, quoi. En parlant du Massif central. Du coup, c'est quelque chose d'assez qui nous paraît capital, mais qui est encore pas tout à fait qui est encore pas compris par la majorité des agriculteurs, quoi. Il faut le dire quand même, ça reste quand même quelque chose qui gêne, et qui gêne beaucoup la mécanisation, sachant que les fermes font que de s'agrandir et qu'on adapte les parcelles aux machines, alors qu'on devrait plutôt faire l'inverse, quoi. Mais si on veut faire les choses bien, on peut pas être aussi peu nombreux, quoi. Dans les années 50, il y avait 5 millions de paysans et paysannes, on est moins de 500 000, et c'est pas possible de faire bien les choses, de faire son petit jardin bien géré avec les arbres au bon endroit et tout ça, en étant aussi peu nombreux. C'est un peu, enfin, on pourra pas faire de l'agriculture durable et vraiment de l'agroécologie en étant aussi peu dans les champs, quoi. Il faudra, d'une façon ou d'une autre, il faudra remonter la population paysanne. La Confédération paysanne, on dit, on a comme slogan 1 million de paysans le plus vite possible, mais ça pourrait être encore supérieur, quoi. On n'a pas parlé. Voilà. Juliette, j'ai bien parlé du tassement, de l'érosion, de l'érosion qui peut se faire, qui est par le vent ou la pluie qui ruisselle. On peut parler aussi du tassement. C'est les sols tassés, c'est des sols qui infiltrent beaucoup moins l'eau, qui la retiennent moins, et ça peut induire une baisse de rendement jusqu'à 25%, parce que c'est des sols qui retiennent moins l'eau, du coup les plus disponibles pour les plantes. Et du coup, c'est un gros impact économique, quoi. Et quand je parlais de mécanisation juste avant, les vieux tracassins de vos grands-parents, les tracteurs des années 50, ils faisaient moins d'une tonne, ils tassaient jusqu'à 30 cm. Aujourd'hui, il y a des tracteurs qui sont gigantesques, quoi, il y en a qui arrivent à des attelages qui dépassent les 8-10 tonnes. Le record, c'est les arracheuses à betteraves intégrales, automotrices, elles arrivent à 70 tonnes. Et souvent, ça passe dans les grandes plaines du Nord en automne, alors que c'est des conditions humides. Et ça, même si les pneus sont larges, qu'ils sont sous-gonflés, tout ça, il y a un tassement qui se fait en très grande profondeur, quoi. Et du coup, ça, c'est pas irréversible, mais en tout cas, c'est très dur à se régénérer. Et un tassement léger en surface, et ben l'alternance gel-dégel, une sécheresse, ça peut suffire à décompacter le sol, plus l'activité biologique du sol. Quand c'est vraiment profond, c'est vraiment très long à se refaire, quoi. On a beaucoup de questions à se poser par rapport à ça. Voilà. Dans les pratiques qu'on a mises en place aussi, ça c'est un peu mon dada sur la ferme, c'est qu'on a mis en place les semences paysannes. On a depuis 2005 maintenant, on a ressorti en lien avec le réseau semences paysannes, vous avez peut-être entendu parler, du coup de refaire des sélections à la ferme, de reprendre des variétés anciennes, dans lesquelles, avec un réseau, puis un petit peu la ferme, on a refait des sélections, du coup on crée de nouvelles variétés qu'on cultive, sachant que pour le blé, les blés d'autrefois, ils étaient très grands. C'était très beau, mais ils avaient tendance à se coucher dès qu'il y avait un peu de vent ou un peu trop de pluie, et puis les rendements étaient très faibles. Mais par contre, ils étaient beaux, et puis ils étaient digestes. Ça, il y avait un lien entre ça et puis les problèmes d'intolérance au gluten qu'on rencontre un petit peu partout. Et puis, notre idée, c'est d'arriver à trouver des variétés qui tiennent bien debout, qui soient productives, et puis qui soit en lâchant rien sur la qualité, sur la beauté, le goût et la digestibilité. Voilà, du coup, c'est un peu le sens de notre travail. Et puis, on complète ça avec de la farine. Du coup, on vend en direct. Et ça fait une activité qui est assez intéressante. Et puis, on a des excellents retours de la part des gens qui nous prennent la farine ou qui achètent du pain chez des boulangers et boulangères avec qui on travaille, qui disent que ça fait des années qu'on mange plus de pain parce qu'on le digère plus, et là avec ces pains là, et ben ça passe, quoi. Parce qu'il est fait au levain, parce que c'est ces variétés là, parce qu'il n'y a pas eu d'intrants chimiques avec, parce que c'est mouture à meule de pierre, enfin il y a tout un ensemble, c'est dans le levain est vraiment capital là-dedans. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez flatteur. C'est pas seulement financier. Bon, on gagne notre vie, mais c'est surtout le fait que des gens nous disent c'est le ventre qui parle, ça nous fait du bien. Et du coup, là, on se dit qu'on n'est pas dans le faux quand on est en train de faire notre boulot. Quoi. On n'a pas parlé de bon pour les pesticides, ouais, tout le monde est un petit peu au clair, quoi. Je pense. voilà, pour nous, on est passé en bio en 2008. Enfin, c'est quelque chose qui était assez évident. Par contre, il y a un point qu'on néglige beaucoup trop souvent, je pense, dans les documentaires, dans ce qu'on peut entendre et dans les conversations, c'est l'importance qu'ont pris les engrais, et surtout les engrais azotés, dans le système agro-industriel dans lequel on est. Quoi. J'en ai fait toute une petite liste. Enfin. Pour nous, par exemple, pour la ferme, on en achetait avant de passer en bio pour 7000 euros par an et on vendait le blé à 100 euros la tonne. Du coup, il fallait déjà 70 tonnes de blé rien que pour payer l'engrais. Du coup, c'est au niveau pour l'économie des fermes, ça a quand même une grosse importance. Et c'est avant de donner des subventions, il ferait mieux d'expliquer aux gens comment faire pour limiter les charges et puis moins dépenser. Enfin, voilà. Sachant que le prix des engrais a triplé depuis, quoi, triplé ou quadruplé. Pour le sol, c'est un grand effet parce que ça stimule la minéralisation du carbone, enfin l'humus du sol, et ça, de mettre de l'azote, des engrais azotés là-dedans, ça accélère le travail des bactéries, et du coup ça déstocke énormément de carbone, et c'est ce qui fait, ça participe un peu à la perte d'humus des sols, du coup ils sont moins capables de retenir l'eau, et puis ça part dans l'atmosphère aussi, c'est un énorme impact pour le changement climatique. Enfin, les systèmes agricoles, on dit que c'est entre 20 et 30% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, et les engrais là-dedans, ils en ont une part énorme, quoi. L'engrais azoté, il faut une tonne de pétrole pour produire une tonne d'engrais, plus après il y a des émissions de protoxyde d'azote dans l'air, c'est des particules fines, c'est des polluants, et en plus ont un impact gaz à effet de serre qui est énorme. C'est ces engrais-là qui polluent les eaux, qui polluent les sols, mais qui font après les nitrates dans l'eau, qui font les algues vertes, ce genre de choses. C'est des transports à très longue distance, du coup ça encombre aussi les routes. Les engrais, ils viennent en bonne partie de Russie ou d'Égypte ou un peu d'Algérie aussi. C'est fabriqué à partir de gaz maintenant. Du coup, ça a aussi un lien directement avec la géopolitique, c'est-à-dire que en étant dépendant des engrais, on se rend aussi dépendant de Poutine. Et puis après, on n'ose plus rien lui dire parce que quand même, on est un peu dépendant de lui. On a besoin de son gaz, on a besoin de ses engrais, on a besoin de... Enfin, vraiment tout est lié, quoi. Et lui, il sait très bien à quel point il nous tient par ce genre de choses, quoi. Et puis un autre truc qui est très important, c'est que ces engrais-là, en fait, ils stimulent les plantes qu'on n'aime pas voir. C'est-à-dire que les plantes, les engrais azotés, c'est des nites. Il y a des plantes dites nitrophiles qui aiment les nitrates, et du coup, c'est celles qui sont les plus ennuyeuses dans les champs, quoi. Du coup, rumex, chardon, liseron, ce genre de choses, quoi, qui sont envahissantes. Et si on met des engrais, c'est vachement dur derrière de pas mettre, on est coincé, on est presque obligé de mettre des herbicides derrière. Alors que on s'est rendu compte qu'en arrêtant les engrais, les espèces ennuyeuses, vraiment envahissantes, elles disparaissaient d'elles-mêmes. Et puis, il arrivait toute une autre cohorte d'espèces, vachement beaucoup plus intéressantes. Les plantes dites messicoles dans les cultures, les plantes des moissons. Les plus connues, c'est le coquelicot, mais le bleuet, enfin, il y a vraiment une grande liste. Celles-là, elles sont revenues progressivement à partir du moment où nous, on a arrêté les herbicides. Et puis, elles sont beaucoup moins envahissantes, et puis après, on peut les tolérer dans les champs de blé. Du coup, il y a du blé, mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi il y a plein de fleurs au printemps, mais c'est des petites plantes. Elles sont très jolies. Les abeilles sont heureuses. C'est fait des beaux paysages. Et ça veut dire que c'est un révélateur de sol qui fonctionne, bon, pas dire bien, mais en tout cas qui fonctionne pas trop mal, quoi. Et il y a aussi des liens entre ces plantes-là par les racines. Il y a eu quelques études de fait dans ce sens-là. Et des échanges qui se font par les racines, et ça aura une influence même sur le goût des aliments, quoi. Voilà. Du coup, en fait, si on arrête les engrais, on arrête la source de ce qui est détraqué dans les champs, quoi. Voilà. Enfin, pour une bonne part, quoi. Et surtout dans les régions de polyculture élevage, on a assez d'animaux, faut faire avec ça. Plus mettre des légumineuses, cultiver du trèfle et mettre des arbres, et avec ça, on a moyen d'être de se passer de l'agrochimie. Mais bon, il y a derrière toute une industrie à faire tourner, il y a des coopératives qui vivent largement de la vente de ça, du coup, ils n'ont pas tellement incité à aller dans ce sens-là, quand même, encore par le système dominant, quoi. Voilà, et puis pour les régions qui sont pas de polyculture élevage, les grandes plaines, si on veut faire les choses bien, il faudra remettre des animaux dans les grandes plaines, c'est-à-dire vous avez peut-être vu un documentaire qui s'appelle « Tu nourriras le monde » là sur la Champagne crayeuse, qui est passionnant. Ils expliquaient ce qui s'est passé dans les années 50, quand les engrais justement sont arrivés, la mécanisation outrance, ils ont arrêté du jour au lendemain tous les animaux, ils ont arraché les arbres, et puis ils ont remplacé par des engrais, et aujourd'hui ils touchent le fond de ça, les sols sont appauvris, la fertilité a beaucoup baissé, économiquement c'est plus si florissant que ça. Et si on veut vraiment retourner à un système durable, ça veut dire remettre des vaches et des moutons et des chevaux en Beauce, en Brie et en Champagne, et aussi en enlever dans les régions où il y en a trop. Par exemple, je pense à la Bretagne, mais les Pays-Bas ou des régions comme ça, on ne pourra pas faire autrement si on veut faire les choses bien, quoi. Et ça passera certainement aussi par une diminution un petit peu de la quantité de viande qu'on mange. En 80 ans, on est passé de 20 kilos de viande par an et par habitant à 80. Et si on sort du système de l'agro-industrie, on va forcément rebaisser à, je sais pas, 20, 30 ou 40 kilos. Enfin, voilà. C'est pas possible de manger à tous les repas énormément de mauvaise viande qui nous rend malade pour, c'est ce que je disais, ça a aussi un impact du coup sur le climat derrière et tout, quoi. J'ai pas tout regardé sur le temps, mais. ça passe. Mais pour tout ça, je veux un peu. Ah oui, d'accord, voilà. Super. Ouais. Et voilà. Puis juste pour finir sur une petite note un peu politique. parce qu'on est au CRHA, c'est vraiment une circonstance, et que toutes ces politiques-là, il y a des décisions et des choix politiques qui ont été faits, qui ont des impacts directement sur le paysage qu'on voit à bord de la route, sur le fait qu'il y a un département tous les 7 ans qui soit urbanisé, comme on le disait, c'est vraiment une catastrophe, parce que sur une autoroute, ça part directement à la rivière, enfin voilà, c'est de l'eau chaude qui est polluée. Et puis sur les choix qui ont été faits d'intensification, de favoriser certains systèmes plutôt que d'autres, il y a des choix politiques derrière qui ont été faits. Il y a des partis qui veulent aller continuer dans un système comme ça, voir la grader, d'autres qui veulent aller dans d'autres directions, et c'est vraiment pas neutre les choix qui sont faits, qui on désigne comme personne pour nous représenter ou pas nous représenter, mais enfin c'est des choses qui nous concernent tous et tous, quoi. Par exemple, pour prendre quelques exemples perso, quand il y a eu la PAC de 92, la prime à l'herbe, du coup l'herbe est beaucoup plus vertueuse pour les systèmes, pour l'élevage que le maïs. La prime à l'herbe était 300 francs à l'hectare, alors que la prime au maïs pour faire l'ensilage c'était 2000. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a eu énormément de retournements de prairies. Parce que simplement, on était très lourdement incité à aller dans un sens plutôt que dans un autre. Et puis, mais heureusement, il y a beaucoup de systèmes herbagers, vu qu'ils sont beaucoup plus vertueux, ils sont plus économiques, du coup, ils se sont maintenus quand même. Et par contre, les systèmes qui ne le sont pas ont été tenus à bout de bras, ont été tenus en vie à bout de bras par des primes, et c'est ce qui est encore le cas aujourd'hui, quoi. Et il y avait des aberrations, heureusement, ça va un petit peu mieux maintenant, mais on avait eu, par exemple, un contrôle sur la prime de maintien de système d'élevage extensif, la prime PMS2E. Et le contrôleur était venu, on était tout fiers de lui montrer une prairie. Enfin, ça date du tout début des années 2000. Une prairie qui était magnifique, avec un verger, du coup, des arbres. On venait de faire les foins, on avait fauché à la faux autour des arbres, tout, c'était super beau. Et en fait, il nous a dit, non, c'est pas possible, là, c'est soit vous avez de la prairie, soit vous avez des vergers. Mais les deux ensemble, ça marche pas. Voilà, du coup, il nous a sucré la parcelle en question, elle était plus primable, du coup, on a perdu les aides là-dessus, alors que c'était celle dont on était le plus fier à montrer, parce que, justement, on produit des pommes, de la prairie, de la viande, du lait, du bois, des beaux paysages, du miel, de plein de choses, tout au même endroit, et ça, non, c'était pas, ça rentrait pas dans le logiciel, c'est trop complexe pour leur système, du coup... Et bon, nous, on a gardé notre verger, puis on a perdu les aides, mais il y a beaucoup de gens, à ce moment-là, on se sont dit, bon, on s'utilise plus trop les... Merci.
Voilà. Ouais.
Voilà. Voilà. Mais malheureusement, il y a beaucoup de fermes qui ont arraché leurs vergers suite à des décisions aberrantes comme ça. Quoi. Ouais. Et puis, il y a encore des incitations au suréquipement. Il y a beaucoup de choses. Enfin, voilà. Bon, après, on peut parler pendant toute la journée, mais il y a quand même beaucoup d'aides qui sont pas, qui pourraient être vraiment réorientées. La politique agricole commune ou les politiques nationales et régionales, on peut vraiment faire beaucoup mieux avec le budget constant ou avec moins, en étant beaucoup plus vertueux, avec plus de monde et plus de des plus beaux paysages et plus une paysannerie en meilleure santé aussi. Voilà.
Oui, tout à fait.
voilà, merci à vous.
Excusez-moi. Est-ce que je peux... Est-ce que vous me permettez, juste de rebondir sur ce que Raphaël vient de dire?
Pardon?
Il y a un truc très important qu'il nous a mentionné quand il a expliqué les haies, c'est ça fait partie des keyline designs, soi-disant. Enfin, keyline, c'est un nom pour dire ça. Et c'est vrai que ça change la trajectoire de l'eau. Et quand tu parlais d'une haie plantée, une source réapparaît. C'est vrai. Le problème auquel on fait face, c'est que celui qui plante la haie, souvent, la source qui va réapparaître, ce sera sur un terrain qui n'est pas le sien. Mais c'est ça qui nous divise. Et c'est pour ça qu'il faut y faire face collectivement. Et c'est pour ça que c'est un problème de tenure de l'eau. Ce n'est pas un problème de propriété. Et il faut distinguer, s'approprier l'eau, d'avoir une tenure collective de l'eau. Et c'est ça le danger, le défi auquel nous sommes confrontés maintenant. Excuse-moi, je ne pouvais pas ne pas réagir parce que tu nous as donné un exemple tellement magnifique. Là.
Merci beaucoup. Ces trois interventions étaient très très complémentaires. Et d'ailleurs, on a pu comprendre, vous avez entendu le scandale de l'eau minérale en bouteille là qui est contaminée. Ben, là, on a bien compris pourquoi elle est contaminée, là, cette eau. C'est suite à cette mort du sol, en fait. Donc moi, avant de passer aux questions, moi j'ai une question à leur poser, si vous voulez bien, je pense que ça vous intéressera aussi. C'est bon, bah ok, une fois qu'on a démoli le sol, presque tué, mais voire tué complètement, est-ce qu'on peut le faire revivre?
Eh ben oui. non mais je vais aller à
je pense que ça vous intéresse.
Oui. Ben c'est non mais de toute façon, nous avons eu une merveilleuse démonstration que c'est absolument tout à fait possible au niveau des processus physiques, au niveau des processus biologiques, au niveau des processus chimiques, tout est là et on comprend, il faut que ça puisse, ça peut fonctionner. Ensuite, le problème, c'est est-ce que la société permet aux gens de le faire. Alors, il y a des pionniers, enfin, il y a des gens, il y a beaucoup d'agriculteurs depuis longtemps qui se battent et qui montrent que ça marche. Enfin, pas miraculeusement, mais les scientifiques de l'INRA, qui s'appelait l'Institut National de la Recherche Agronomique, maintenant ça s'appelle INRAE, Institut National de la Recherche Agronomique dans l'environnement, ont pris conscience que, ben, quand même, l'agriculture, ça marchait pas si l'environnement ne fonctionnait pas. Et il y a énormément de recherches très intéressantes, donc je vais en parler rapidement. Donc, ben voilà, en fait, c'est pas compliqué, hein. On va repasser du sol à gauche au sol à droite. En 2015, quand même, la FAO, qui est l'organisme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, a décidé que 2015, c'était l'année des sols. Donc quand même, on prend conscience que le sol, oui, c'est pas juste un truc dans lequel mon arbre va pousser, mais c'est quelque chose qui est important. Et donc, eh ben, on passe à ce qu'on appelle l'agroécologie. Hein. Alors bon, ben donc Raphaël en a parlé évidemment. Et l'agroécologie, c'est pas compliqué. On va basculer d'un système où on utilisait énormément d'intrants externes, chers, beaucoup d'énergie. Avec, ça produisait certes, mais ça produisait aussi énormément d'externalités négatives, dont des tas de pollution, des maladies, des empoisonnements, et puis aussi une destruction du sol. Donc on passe à un système qui va être intensif en écologie. Donc, au lieu de s'appuyer sur des intrants externes, hein, les engrais, les pesticides, etc., les très gros tracteurs, on va s'appuyer sur le fonctionnement écologique du système. Entre autres, avec toute la vie dans le sol, mais pas que dans le sol, aussi dans les arbres, là, dans les haies aussi, dans les champs. Et donc, ça veut dire qu'il faut le soutenir, ce système. Il faut faire en sorte que la vie fonctionne pour nous aider. Alors, si vous regardez les deux colonnes là, ben, y a déjà une chose qui saute aux yeux quand on compare. Alors, l'agriculture de gauche, c'est l'agriculture conventionnelle, enfin dite conventionnelle. Il n'y a jamais eu de convention. C'est une agriculture industrielle. Et ben, ce que vous voyez énormément de sols nus, entre autres. Hein, et alors que à droite, en agroécologie, vous avez un sol qui est pratiquement tout le temps couvert. Vous avez, Raphaël a parlé de ça, vous avez des arbres, hein, et vous avez aussi des haies, mais vous avez des arbres, et vous avez des animaux. Vous avez une association de différents systèmes qui vont se compléter. Mais surtout, vraiment, on laisse le système le plus souvent couvert possible, et ça s'appelle, enfin, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle l'agriculture de conservation. Quand on dit agriculture de conservation, ça veut dire agriculture de conservation du sol. On va arrêter de détruire le sol, on fait du semi-direct, sans labour ou avec du labour réduit, on met énormément des apports de carbone par-dessus, sous n'importe quelle forme, et on le couvre. Alors, voilà, l'agriculture de conservation pratiquée à très très grande échelle, les gens vous disent, ah ben oui d'accord, mais si on laboure plus le sol, ben on est obligé de mettre du glyphosate, parce que sinon, hein, ça ira pas. Parce que on est dans un système. Parce que ça, on reste dans un système vraiment de monoculture où on veut produire une seule chose et où tout le reste est une ennemie, en fait. Et en fait, on a tort. Les choses doivent se collaborer. Enfin, il faut utiliser. Et là, ce qui se fait de plus en plus, ben d'ailleurs, Raphaël en a parlé, c'est des cultures associées où on a donc des céréales avec des légumineuses. Donc, ben, du coup, on n'a plus de soi-disant mauvaises herbes qui poussent entre les céréales. Et alors, avec ceci, on a une augmentation du carbone dans le sol, on a une augmentation de la biodiversité, on améliore la structure, ça je vais le montrer. C'est très important parce que cette amélioration de la structure du sol, elle permet à la fois une meilleure infiltration de l'eau et une meilleure rétention de l'eau, hein, comme Julie en a parlé.
Spécial. Pardon ? Ce qui est crucial.
Oui, ce qui est crucial. Et là, par exemple, c'est une expérience qui a été faite en Tunisie, donc vraiment dans un climat sec. Donc on voit, on a des bouts de bois là entre les plantes, enfin le sol est couvert. Alors sur les graphiques, on compare. Alors CT, ça veut dire c'est le labour conventionnel, et NT, c'est sans labour, NT7, ça veut dire au bout de 7 ans. On regarde ce qui se passe au bout de 7 ans. On regarde les microporosités. Les microporosités du sol, ce sont les tout petits trous dans le sol. Et les macroporosités, c'est des trous qui sont un peu plus gros dans lesquels l'eau va plus couler. Et la combinaison des deux vous donne l'eau disponible. Et bien, ce que vous voyez, c'est que lorsque vous avez un labour réduit ou du sans labour, vous diminuez vos gros trous, vous augmentez vos petits trous, et à la fin, tout ça vous permet d'avoir plus d'eau disponible dans le sol. Lorsqu'on est dans un climat sec comme en Tunisie, c'est évidemment très important. Puisque vous arrêtez de remuer votre sol, vous avez évidemment une meilleure biodiversité, et entre autres, concernant les mycorhizes, dont je lui ai rappelé que c'était quand même une recherche très récente, mais on se rend compte que sans labour, eh ben, on a beaucoup plus de mycorhizes.
Excusez-moi, elle sait trop bien ce dont elle parle. Les mycorhizes, ce sont ces symbioses,
oui,
entre les filaments micellaires et
pardon,
la racine de la...
Oui, c'est ça, c'est la symbiose, oui, champignons-plantes, voilà, exactement. Bon, je vais vite, mais il y a eu des tas de manips qui montrent que la biodiversité, en agriculture biologique, la biodiversité est meilleure, ça c'est évident. Mais on va arriver à un point dont Raphaël a parlé qui est important, qui est remettre des arbres dans le système. Alors d'abord c'est un peu drôle, parce que remettre des arbres dans le système, il y a des systèmes dans lesquels il y a toujours eu des arbres, les gens n'ont jamais enlevé les arbres, et voilà, et ça s'appelle l'agroforesterie, ça veut dire des arbres associés soit à l'élevage, soit aux cultures. Alors En France et en Europe, en Europe du Sud, en Espagne surtout, les arbres et l'élevage, c'est encore très présent. Hein. On a les pré-vergers, on a en Espagne, on a ben là vous avez des photos les cochons sous les chênes lièges, etc. Ça c'est toujours resté. Par contre, les arbres avec des cultures arables, ça existait en France, essentiellement avec la nuciculture, hein, c'est-à-dire la culture des noix. On en avait dans le Dauphiné et beaucoup dans le Périgord. Voilà, c'est les deux grandes régions en France productrices de noix. Et le noyer, ses feuilles se sortent assez tard, hein, c'est un arbre tardif. Et les gens cultivaient entre les noyers essentiellement des céréales d'hiver, hein, du blé, de l'orge, etc. Et ça se combinait très bien, ça marchait très bien. Et eh ben voilà, la première Pâque est arrivée, et pareil, les gens ils recevaient de l'argent pour une seule production. Voilà, il fallait choisir, soit les noix, soit le blé. Et donc beaucoup, ben voilà, on a supprimé, soit on a gardé le blé, ou alors on a fait des plantations que de noyers, beaucoup plus serrées, avec absolument un sol nu, malheureusement, sous le noyer. Et en fait, lorsque vous avez des arbres associés aux cultures ou à l'élevage, eh ben vous, ah oui, ce qui est quand même intéressant, on a mesuré, ça a été observé, si vous avez une plantation d'arbres, quelle qu'elle soit, et vous regardez comment se distribuent les racines dans le sol, vous avez quand même essentiellement des racines dans le premier mètre, hein. Après, vous en avez encore, mais beaucoup moins. Lorsque vous avez des arbres associés avec des cultures, eh bien, les racines des arbres vont beaucoup plus profondément. Ça a été mesuré, parce que les cultures d'hiver, surtout, elles sont là, elles végètent pendant les mois d'hiver, elles vont redémarrer au mois de mars, par là, donc elles sont actives, et quand l'arbre, lui, va se un peu réveiller, eh bien, il va voir que, bon, il y a de là quelque chose, il va aller plus loin. Et c'est un phénomène de plasticité, et ça a été mesuré, ça a été observé, c'est quand même très intéressant. Donc pareil, ben l'arbre aussi avec si on ne détruit pas les symbioses avec les champignons, les symbioses mycorhizes, les champignons, il va pouvoir accéder à de l'eau, à des nutriments profondément. Il fabrique, ben ça, Raphaël et Julie en ont parlé, il fabrique des haies contre le vent et contre la chaleur aussi en été. Enfin, c'est quand même insupportable de voir dans les pays du sud ces animaux en été dans des prés où il n'y a absolument pas d'arbres. Un microclimat, oui. Ouais, bon. Eh ben, je m'arrête, de toute façon. J'en suis au dernier.
Je vais juste ajouter un truc, oui, parce que ces arbres-là, c'est vrai. Quand les racines vont profondément comme ça, eh bien, ils vont mieux résister à la sécheresse lorsqu'elle arrive. Donc, en fait, pourquoi leurs racines vont plus profondément? C'est parce que comme ils sont en compétition avec les racines plus superficielles des céréales pour qu'ils leur piquent toute l'eau, alors ils doivent aller chercher plus profondément. Mais ça fait que ces arbres-là, lorsque la sécheresse arrivera au milieu de l'été, ils survivront beaucoup mieux. Donc ils pourront survivre sans irrigation. Et ça, c'est donc une manière de s'affranchir de l'irrigation.
Voilà. Bon, ben, je termine. Tout ça pour dire, si on arrive à basculer vers un système comme ça, on atténue le changement climatique, on augmente les capacités d'adaptation au changement climatique. Comme je l'ai dit, au niveau physique, biogéochimique, c'est tout à fait possible. Il faut ensuite que les citoyens et que la société et que le système politique poussent, quoi. Voilà, aille dans le bon sens.
Merci.